Studio Tamani, voici les informations en français.
COP 28, les discussions continuent à Dubaï. Cependant, il n'y a toujours pas de consensus autour du processus de mise en œuvre de certains points évoqués, indiquent des négociateurs maliens. Lutte contre les VBG, les blogueurs et influenceurs entendent jouer leur partition. Ils ont entamé hier lundi une formation de 2 jours. Booster l'écosystème numérique au Mali, c'est l'objectif de la première édition du Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN. Il a démarré également hier lundi à Bamako. Et c'était là les titres de ce mardi 5 décembre 2023. La présentation, Adama Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition matinale COP 28. La déclaration sur l'agriculture, l'alimentation et l'action climatique a été adoptée vendredi dernier par 134 États, mais à ce jour, il n'y a toujours pas de consensus autour du processus de mise en œuvre, indiquent des négociateurs maliens. Il s'agit d'un engagement qui vise à inclure l'agriculture et l'alimentation dans les plans climat des pays signataires, dont le Mali. Le point à suivre ici avec notre envoyé spécial à Dubaï, Mohamedou Touré.
En Afrique, particulièrement au Mali, le secteur agricole est confronté à d'énormes défis en lien avec le changement climatique. La pénurie d'eau, la dégradation des sols, la hausse des températures en sont quelques-uns. Une situation qui impacte beaucoup sur la sécurité alimentaire. Pour y faire face, une déclaration a été adoptée vendredi dernier ici à Dubaï où se tient la COP 28. Cet engagement devrait permettre notamment de développer la résilience au changement climatique et de renforcer la sécurité alimentaire. Mais pour le moment, deux positions divisent les pays développés appelés les pays de l'annexe 1, et ce, en voie de développement en plus de la Chine qui constitue le G77. Rokhiatou Traoré, négociatrice malienne.
Les positions divergent parce que les pays du G77, eux, ils veulent créer un groupe de coordination qui sera reconnu par les Nations Unies, qui va diriger cette mise en œuvre. Et les pays de l'annexe 1, par contre, eux, ils ne trouvent pas, en fait, l'utilité de mettre en place un groupe de coordination.
Rokhiatou insiste aussi beaucoup sur les défis liés à l'accès au financement pour une meilleure adaptation du secteur de l'agriculture aux contraintes climatiques. Mais le chercheur malien Lamine Samake souligne qu'il manque également une bonne organisation politique pour bien gérer le secteur agricole.
Puis à ces défis, il faut ajouter également l'organisation politique. Moi, je pense que nos pays dépendent de l'agriculture, nos populations s'activent majoritairement dans l'agriculture, leurs revenus dépendent de l'agriculture, donc nous devrons dorénavant accompagner ce processus-là. Les politiques doivent vraiment mettre le paquet.
Il faut souligner que la COP 28 se poursuivra jusqu'au 12 décembre prochain à Dubaï. Des négociateurs espèrent qu'un consensus sera trouvé d'ici là pour le bonheur des agriculteurs. Mohamedou Touré depuis Dubaï pour Studio Tamani.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'interdiction de la circulation des véhicules de transport sur l'axe Douanza-Gao impacte certains domaines d'activité à Douanza. Selon des témoignages, cette limitation du trafic a eu des conséquences sur les revenus des transports et les activités économiques des habitants de la région. Ces derniers saluent tout de même le bien fondé de la mesure, mais souhaitent une réouverture rapide du tronçon. Intal Agbilal.
Sidi Haïdara est le président du syndicat des transporteurs de la région de Douanza. Il affirme que l'arrêt du transport des passagers à destination de Gao depuis plus d'une semaine a eu des conséquences sur leur chiffre d'affaires.
Cette interdiction nous pénalise car les véhicules partaient auparavant malgré les difficultés. Leur arrêt est un coup dur pour les passagers et les transporteurs que nous sommes. Notre source de revenus dépend de cette activité.
Pourtant, cette mesure de sécurisation des personnes et des biens est fortement saluée par les habitants de la région. Toutefois, ils demandent aux autorités de faire le nécessaire pour rétablir la libre circulation sur ce tronçon vital pour la région. Écoutons le témoignage de cet habitant sous anonymat.
L'arrêt du transport entre Douanza et Gao va impacter impérativement sur la population civile, non seulement par rapport à la fréquentation des foires hebdomadaires, que cette décision, certes, est dure, mais il est faux, puisque c'est pour les biens de toute la population.
L'autre impact de cette mesure restrictive est le constat d'une légère augmentation des prix de certains tarifs de première nécessité sur le marché de Douanza. Cette flambée est évoquée par des sources concordantes. Et pourtant, ces dernières estiment que la décision ne s'applique pas aux véhicules de transport de marchandises.
Plus d'une dizaine de blogueurs ont commencé une formation de 2 jours sur les violences basées sur le genre ce lundi 4 décembre 2023 à Bamako. L'objectif est de leur doter des thématiques sur les VBG afin que les couches les plus touchées soient protégées contre le phénomène. Plus de détails avec Sita Sidibé.
Selon Ousmane Mahaman Sissé, formateur, il s'agit d'amener ces blogueurs et activistes à jouer leur partition dans la sensibilisation des communautés sur les violences basées sur le genre.
L'objectif, former des blogueurs par rapport aux questions liées aux violences basées sur le genre. Ce sont des blogueurs, donc ils sont en interaction tout le temps avec la société. Donc il faut renforcer leur capacité pour que vraiment ils contribuent aux actions pour le changement de comportement.
Pour les participants, c'est une opportunité qui leur permet d'informer pour un changement de comportement à l'égard des filles et des femmes.
Il y a assez d'importance puisqu'on a décidé de choisir les gens qui animent un peu les réseaux sociaux.
J'accorde énormément d'importance à cette formation. Déjà que je suis féministe, je suis web activiste, c'est une thématique qui me touche vraiment.
Pour une lutte efficace contre les violences basées sur le genre, les participants et formateurs demandent l'implication de toutes les couches sociales.
Comme annoncé dans les titres, la première édition du Salon international du développement accéléré du numérique, SIDAN, a débuté ce lundi à Bamako. Elle est initiée par le Conseil national du patronat du Mali en collaboration avec le ministère de la communication et de l'économie numérique. L'événement est placé sous le thème « Souveraineté numérique et technologique, vision et stratégie ». Khalifa Guita.
Docteur Amadou Ntouré, président de la commission d'organisation du SIDAN, nous livre l'objectif visé par ce salon sur le numérique.
Le SIDAN vise à relever le défi de la mondialisation et à mettre en avant les avantages de la société de l'information, à faire du Mali un hub technologique dans un proche avenir, mesurer les avancées techniques et technologiques pour répondre à la forte demande en Afrique et particulièrement au Mali.
Pour Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat, le secteur du numérique est le moteur essentiel de l'innovation et de la croissance économique.
Les entreprises établies et les acteurs ont ici l'opportunité de tisser des liens qui définiront le paysage numérique de demain. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème qui encourage les investissements, stimule la création d'emplois.
Des panels de haut niveau, des conférences inspirantes sont entre autres activités prévues pendant les 3 jours du salon qui enregistrent la présence de plusieurs participants venus du Mali et d'ailleurs.
Notre chronique Zoom sur du jour s'intéresse à l'inconditionnel amour entre parents et enfants. On se plaint de leur turbulence, mais juste le temps d'un silence, l'inquiétude s'installe. Lale Tangara.
Oui, ce silence assourdissant des enfants qui n'apaisent pas. Et pourtant, on se plaint fréquemment du fait qu'ils ne restent pas tranquilles. Ne touchez pas à mes affaires, reste sur place. Ne frappe pas ton frère, c'est le quotidien de plusieurs parents. Pour les psychologues, si l'enfant est turbulent, c'est d'abord parce qu'il est en pleine phase de développement de son intelligence et de sa motricité. Mais la sagesse dit, lorsqu'un enfant reste tranquille, il est sûrement malade. N'empêche, les parents veulent quand même qu'ils fassent moins de bruit à la maison. Et cette accalmie, dès qu'elle s'installe, les parents moins pessimistes se pressent pour aller voir. Pour d'autres, ce sont des questions qui taraudent l'esprit. Ce silence n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait encore? Est-ce que tout va bien? Sont-ils sortis? Tant de questions en temps record. Ça, c'est le typique de Fatouma. Avec ses enfants, c'est toujours des cris par-ci, des cris par-là. Elle en fait même une crise des fois. Mais malgré les agissements de ses enfants, impossible pour Fatouma de passer une minute sans y.
Merci Lale Tangara, 8h passées de 9 minutes dans ce studio. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani, téléchargeable sur Play Store.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Dans son dernier rapport, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, affirme qu'une étude montre que 86% des jeunes sont favorables à la corruption. Une situation alarmante pour les acteurs de la société civile qui estiment que l'État doit prendre à bras le corps la lutte contre la corruption tout en adoptant de nouvelles stratégies. Comment lutter donc contre la corruption? C'est le thème du magazine Gouvernance et Citoyenneté, présenté ici par Aboubakri Naaga Mohamed Niatara.
Une partie de la population malienne juge le niveau de la corruption en hausse malgré l'existence de plusieurs structures de lutte contre le phénomène. Mais elle dit être consciente de sa part des responsabilités.
Les autorités travaillent, mais les attentes de la population ne sont toujours pas répondues dans le cadre de la lutte contre la corruption. Aussi, la population est fautive parce que c'est nous-mêmes qui encourageons cette situation.
C'est deux parties qui font la corruption. Si vous voyez qu'il y a une corruption, c'est qu'il y a un corrupteur. Pour moi, la corruption est très négatif pour notre communauté.
L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, est chargé de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées contre ces fléaux. Elle s'inquiète de la perception de l'opinion publique face à la corruption. Moumine Guindo, président de l'OCLEI.
La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société. Elle compromet le développement social et économique, met en péril la vitalité des institutions. Selon une étude menée par un projet canadien en 2016-2018, environ 86% des jeunes maliens sont plutôt favorables à la corruption, ce qui est un seuil alarmant.
Certes, l'OCLEI dit ne pas disposer des moyens de répression, mais pour les associations de lutte contre la corruption, la justice devra jouer davantage son rôle. Samirou Diallo est de l'association de la société civile Démocratie 101.
Sur la loi portant création du bureau du vérificateur général, le procureur a l'obligation de donner une suite au rapport du vérificateur. Et la société civile forme, informe, sensibilise, dénonce tout ce qui est acte de corruption. La production de ces rapports, c'est une avancée, mais ce qui peut être mieux ou plus être amélioré, c'est d'arrêter ces délinquants financiers.
Pour la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, il faut de la pédagogie pour endiguer ces phénomènes au Mali. Le vice-président de cette coalition, Ahmed Sekou Diallo, reconnaît tout de même l'existence d'une volonté politique de lutter contre la corruption.
On ne peut pas pour le moment évaluer cette stratégie-là, mais ce qu'il faut dire, qu'il y a une volonté politique depuis quelques années de lutter contre la corruption à travers la mise en place de certains outils. Il y a beaucoup d'autres structures que l'État a mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption. On ne peut pas voir les résultats d'un coup, mais nous disons que la stratégie pour lutter contre la corruption, c'est vraiment de la pédagogie qu'il faut faire.
La corruption est un problème culturel dont le combat nécessite une implication de tous. Selon le sociologue Yacouba Dogoni, il faut un changement de comportement et de mentalité des citoyens afin d'éradiquer ces fléaux.
À ce niveau, il faudra vraiment que l'État arrive vraiment à alléger un peu les démarches administratives. Il faut que la justice joue énormément son rôle et que tous ceux qui sont responsables puissent être sanctionnés. Il faut que les gens aient peur vraiment de la justice. Mais on ne peut pas y échapper parce que la corruption est en quelque sorte considérée comme un phénomène culturel d'aujourd'hui. Donc chacun tente vraiment de sa manière.
Les différences acteurs de lutte contre la corruption appellent à une coordination des efforts, un renforcement des synergies, ensuite une mobilisation des acteurs à travers des actions stratégiques ciblées.